midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche, c'est son premier Book Club. Steve, bonjour.
Salut, salam, shalom, ikigai.
Votre premier livre est sorti la semaine dernière et pour un premier essai, c'est un coup de maître puisque vous êtes numéro un des ventes, tous livres confondus sur Amazon. Ça s'appelle Karma Sutra, transforme-toi, tu transformeras ton histoire, comme vous pouvez le voir, sur la vidéo de l'émission que vous retrouverez sur la chaîne YouTube puisque l'émission est filmée. Steve, c'est votre premier livre. Comment est-ce que vous avez abordé cette nouvelle discipline ? Parce qu'on n'écrit pas un livre comme ça du jour au lendemain en achetant le « J'écris un livre pour les nuls ».
Bah déjà, je suis rappeur à la base. Les gens le savent, tout le monde le sait. Je veux dire, il n'y a qu'à lire ma fiche Wikipédia. Je suis rappeur, ancien champion de France de slam aussi. Donc l'écriture, c'est un truc, c'est dans les veines un peu. La dernière fois, je passe à l'aéroport, le mec il me dit « Vous sonnez ? Vous avez quelque chose sur vous ?» Je dis « Non, c'est l'armure en adamantium, parce que j'ai une armure en adamantium en dessous. » Voilà. Donc ceux qui ne connaissent pas armure en adamantium, vous tapez « Armure en adamantium » sur Internet. Vous allez comprendre. Donc non, c'est dans le sang l'écriture. Voilà. Depuis que je suis petit, d'ailleurs, dans le livre, je raconte, j'étais petit, j'écris des poèmes et tout, ça fait un peu, t'écris des poèmes, il écrit des poèmes, tu vois. Mais j'écris des poèmes, mis sur une instru, ça fait du rap, concrètement. Docteur Dre, personne dit que c'est une baltringue. Donc ça n'a aucun sens.
Alors l'histoire, pour ceux qui nous écoutent, vous racontez comment à la suite d'un crash d'avion de vos parents dans la Cordillère des Andes, vous avez échappé à la mort, vous avez été élevé par des loups. À ce moment-là, vous apprenez à devenir le chef de meute des loups.
Tout à fait, j'apprends le louveteau. Donc je peux vous, par exemple, bonjour en louveteau. C'est un des premiers trucs que tu apprends quand tu arrives chez les loups. Voilà. Donc,
et ils vous ont pas dévoré, c'est ça qui est terrible.
Non, parce que la règle, c'est que si on te jette au loup, tu reviens à la tête de la meute. Et là, tout de suite, concrètement, la matrice bug. Tout bug, en fait, les gens ne comprennent pas.
Alors, sans raconter toute l'histoire, effectivement, bon, c'est tout un apprentissage, puisque vous n'êtes pas le chef de la meute aussi rapidement, il y a pas mal d'apprentissage. C'est toujours compliqué, finalement, quand on reçoit et qu'on lit le livre de quelqu'un qu'on connaît bien, ce qui est le cas, je vous connais, parce qu'on a peur d'être déçu, finalement, et peut-être de ne pas être le meilleur lecteur possible. Ouais. Et c'est compliqué de s'extraire du livre de quelqu'un qu'on connaît.
Déjà, quand tu lis ton livre comme ça, quand tu regardes déjà, bon, pour moi, c'est trop haut, le truc, il y a de l'espace en bas, c'est en noir et blanc alors que ça devait être en couleur, il reste des fautes d'orthographe et tout, mais pour moi, c'est complètement cohérent.
Ah, ça, oui.
C'est complètement cohérent. Parce que ça veut dire en fait que tu sors un livre qui est plein de défauts, d'imperfections, qui aurait pu être un milliard de fois mieux, mais il est sorti. Il est sorti, il est là, il est numéro un sur Amazon, 50 personnes, 5 étoiles et tout, il est là en fait. Et la leçon du livre, c'est ça en fait, c'est si t'attends d'être prêt pour le faire, ça ne va jamais arriver, tu ne vas jamais être prêt. Là moi ce que j'attends, c'est qu'un mec il me dit « ouais, il y a des fautes et tout, ah bon, à quel endroit, quel truc ?» Il y a toujours des gens, tu sais, qui vont tout lire, qui te font le truc des fautes. Ah bon, ok, on corrige. Nouvelle version, nouvelle édition. Hop, il est trop bas. Hop, nouvelle version. C'est ça le truc, en fait. Le livre parle d'itération. N'attends pas d'être parfait. Sors de ta cage, sors de ta roue de hamster. Arrête de narcotiser. La narcotisation est le sport favori des Français, Philippe. Sport mondial. Narcotiser, c'est s'enfermer dans des préparatifs interminables ou dans des occupations qui n'ont aucun sens pour occuper sa petite parcelle de vide. Je veux dire, voilà. Donc tu sors, t'arrêtes, j'ai envie d'écrire un livre. Écris un livre, même pourri, c'est pas grave. Tu vas chez Office Depot, on a le droit de faire de la pub pour des trucs ici. Office Depot, Copytop.
Faut citer trois marques.
Trois marques, Office Depot, Copytop.
Truffaut.
Le Roi Merlin, Truffaut.
Ouais, le Roi, voilà. Le Roi.
J'impose.
Ouais, c'est bien.
Truffaut, voilà. Tu vas, tu l'imprimes en un exemplaire. Bon, par contre, Office Depot, il se sucre. Hein. C'est 100 balles l'exemplaire, les mecs, ils ont pété un plomb. Mais voilà, tu vois, hop, tac, tu l'as chez toi, tu le poses. Voilà, ensuite tu vas, tu démarches. KFC, le mec KFC. Ouais, ils sont bons tes poulets. Ah ouais, ils sont bons mes poulets. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des poulets partout. Il se fait des petites boîtes. Il met un logo à la main. Il fait le tour des États-Unis. Il fait, je sais plus, 1000 tentatives. Un mec lui dit, toi, t'es un bon. Hop, KFC. KFC milliardaire au top. Il y a sa photo partout dans le monde entier. Tu tournes la tête. KFC. Ça a commencé quoi avec trois boîtes de poulets T'imagines les boîtes de poulets? Parce que ça, c'est l'histoire qu'on raconte. Mais moi, je me suis posé la question. Imagine comment ça doit puer dans la Gova. Le mec, il arrive chez les clients. Ça pue la graille, le graillon. Donc, à mon avis, dans l'histoire, il y a un bug. L'histoire ne peut pas être...
Très belle histoire, hein, celle de KFC.
L'histoire est belle, mais
on l'apprend dans les écoles de marketing aujourd'hui.
Tu roules les fenêtres ouvertes.
Mais il y a beaucoup de gens pour qui aller chez KFC, c'est aller manger au restaurant.
Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais, bah, ouais c'est bien, t'as pas la peau trop grasse le lendemain matin, c'est ça qui est pratique. Ouais, tu vois.
Vous avez rêvé votre vie ou vous avez une vie de rêve?
Les deux. Je pense que les deux. D'abord, c'est une équation que j'explique dans le livre. D'abord, tu rêves ta vie. Et puis ensuite, t'as la vie. Et ensuite, tu dois faire que les deux se rapprochent et que ça ne forme plus qu'un. Et quelqu'un disait « Fake it until you make it ».
Non.
Si, on a le droit.
Non.
Elle est pas brevetée.
Non, le book club, il y a que le titre d'émission qui est en anglais.
Elle est pas brevetée.
Elle est pas brevetée, mais elle est tellement reprise et aujourd'hui cette punchline, elle est.
Alors pour les gens, fake it until you make it, c'est une technique de PNL. Si tu veux apprendre l'anglais, les gens disent ouais, comment on fait pour apprendre une langue? Tu fermes les yeux. Tu te concentres comme ça et tu t'imagines, c'est quoi la représentation, l'image d'Épinal, bon là, tout le monde connaît, on revient pas dessus, d'un anglais. Donc moi, j'imagine un lord avec un chapeau en haute forme, comme ça. Yeah, my dear, you see, I'm gonna come from... Et tu vois, en fait, tu te mets dans sa peau. Et en fait, comme le corps croit que t'es lui, bon là, ça n'avait aucun sens, c'est de l'anglais à Nanterre.
Non, c'est pas mal, on sent que... Vous avez payé votre abonnement en plusieurs fois sans frais.
Aucun donc, abonnement, j'ai fait les voyages avec l'école là, en troisième.
Il y a Babel.
Une fois, une semaine. D'ailleurs, voyages qui n'ont aucun sens. Mais pareil, tu vois, j'aime bien remettre en cause. Donc, on t'envoie dans un pays, l'Angleterre, pour apprendre l'anglais. Donc, tu vas le soir dans la famille, bye bye, see you, ils te donnent une bouteille d'eau à côté de ton lit, etc. Et puis, tout le reste de la journée, tu es avec ta classe, avec des Français. Donc, le meilleur truc pour ne pas parler l'anglais, en fait, si tu veux. Ça n'a aucun sens. Comment se donner bonne conscience?
Un mot sur le titre de votre livre.
Ah, le titre, il a fait. Alors, le titre, c'était ça qui était le plus beau. Je me suis connecté au iCloud de l'univers un jour. Voilà. Donc, parce que beaucoup de gens veulent réfléchir. Réfléchir à trop d'analyse paralyse. Tu te lâches. Et quand tu te lâches, bah, c'est là que tu peux te connecter et que tu as l'inspiration. Tu vois le gars sous le pommier, bam, il est là, il rêvasse. Ah, la vie, c'est beau. Bam, une pomme tombe, il la voit tomber au ralenti. Hop. Bon, en vrai, il avait pompé ça chez un autre mec d'une autre civilisation, mais l'histoire de la pomme est quand même plus belle, si tu veux. Voilà, tu vois. Le triangle isocèle, là, l'autre. Bon, lui, pareil, non, on peut pas le reprendre parce qu'il l'a volé chez les Égyptiens et ensuite il l'a importé en Grèce. Bon, en tout cas, il doit bien y avoir un mec qui,
Steve, je pense à l'envers et je me demande toujours comment la pomme, elle est montée sur l'arbre.
Ouais.
Je me demande pas comment elle descend.
Ouais, Pythagore, excusez-moi, parce que le théorème de Pythagore, il a volé sur la pyramide de Khéphren, en fait. Les gens ne savent pas que Pythagore a étudié 23 ans chez les pharaons noirs, en fait. Voilà. Et après, il a ramené et là, essor de la civilisation hellénistique. Voilà, parce que à la base, les mecs, ils connaissaient rien. Et j'en parle beaucoup dans le livre, d'ailleurs. C'est là où j'explique que j'ai été viré un an. J'ai battu un record. Un an de classe d'histoire, géographie et éducation civique. Là, concrètement, je crois qu'ils devraient me faire une plaque dans cette école. Une plaque commémorative, tu vois. Vraiment. Je crois que personne n'a réussi à faire ça.
Ceci dit, sur le titre du livre, est-ce que c'est ce qui vient en premier chez vous ou ça vient après l'avoir écrit?
Non, par exemple, j'ai le titre du deuxième et du troisième. Je me suis connecté avec l'autre de l'univers l'autre jour, je mangeais des churros, et hop, bam, le titre du numéro 2. Et bon, je dirais pas où j'ai eu le numéro 3, parce que là, c'est trop perso. Voilà. Et le numéro 3 est arrivé direct.
D'accord.
Et ça monte en grade, en fait. Plus t'avances dans les titres, plus ça devient insolent, etc. Donc là, Karma Sutra, il y a quelqu'un, il a pris le livre comme ça, il m'a dit « Oh, Starfool, là oh !» Comme ça. Et je dis « Pourquoi ?» Bon, il m'a dit « Non, quand même, c'est un livre de position. » C'est-à-dire, lis bien, tu vois. Et il m'a dit « Ah, Karma !» Je dis « Tu vois, c'est toi qui as l'esprit tordu, en fait. C'est toi qui vois du sexe partout. Ça n'a aucun sens. Donc ne viens pas faire une projection psychologique sur moi de tes propres pulsions pathogènes et voilà, je sais pas si c'est un Oedipe ou...
Mais qu'est-ce que vous mettez dans le terme karma?
Ah bah karma, c'est, si tu veux, mon public est très hétéroclite. Voilà, ça va du nazi, du tatoué, du salafi. J'ai expliqué la dernière fois en formation, j'ai eu peur. J'ai reçu un mail de Siri la dernière fois. Pas Siri, l'application iPhone, hein. Là, vous avez un mail. Non, non.
En fait, c'est Cyril qui vous envoyait. Non, c'est Cyril qui vous envoyait un mail et en fait, le L était parti.
Ouais. Et le gars ou la fibre, je sais pas, j'ai effacé immédiatement. J'ai eu peur, le truc. Tu vois, j'ai cru que le GIGN allait débarquer, quoi. Il me dit, on kiffe et tout, tu vois. Et je disais à mes élèves, j'imagine la scène, un mec dans un char ou dans un 4x4 au milieu du désert, et il écoute Steve Abdelkarim, tu vois. Et là, tout de suite, tu vois, parce que dans le livre, je refais beaucoup l'histoire, je me dis, il y a la 3G. Donc concrètement, les mecs ont la 3G. D'où, comment, quel honneur. Et c'est quoi? Il y a un abonnement SFR là-bas, c'est Orange. C'est qui votre opérateur, les gars, tu vois? Donc, tout de suite, tu vois, il y a des trucs qui bug dans mon cerveau. Et donc, karma, karma, pour moi, c'est un terme. Le mektoub, le karma, le champ quantique, le destin.
C'est-à-dire que chacun y met ce
qu'il
veut.
Chacun y met ce qu'il a envie.
D'accord.
Pendant un moment, j'utilisais champ quantique. Mais champ quantique, tout de suite, ça fait les violons, tu sors les violons. Là, c'est un grand bloogie-boulga de loi de l'attraction, etc. Donc, je me suis dit karma. Voilà, karma, c'est un terme, c'est neutre. Chacun y met ce qu'il veut. On enlève la connotation trop bouddhiste, les vies après la mort, les vies. Ouais, tout là-dedans, tu peux tout mettre. Les multivers, oui, tu peux. Les multivies, multivies, tout. T'as tous les abonnements, multi-tout. Voilà. Et sutra, sutra, ça veut dire les règles. Donc, karma sutra, les règles du karma. Tout simplement. Et puis la baseline, transforme-toi, tu transformeras ton histoire. Bon, pour la baseline, il y avait des trucs plus violents qu'on m'a proposé, mais je pouvais plus, j'assumais plus. On m'a proposé la position du vainqueur. Karma Sutra, la position du vainqueur.
Comment ça, dire c'est, moi, je pense que c'est Nadia El Bouga qui vous l'a proposé.
Il faut que je trouve un mot.
Je pense que c'est une sexologue qui vous l'a proposé.
Il me faut ma ventoline. Où est ma ventoline, s'il vous plaît? J'arrive plus à respirer.
Ceci dit, c'est vous qui avez l'esprit mal tourné. Parce que...
Bien sûr, tout à fait. Parce que voilà, encore une fois, tu vois, tout de suite, c'est des projections.
C'est une projection.
Bien sûr, ça n'a aucun sens. Voilà.
Fake it until you make it. Quelle est la part de sincérité dans votre livre?
La part de sincérité.
Ouais, et est-ce que c'est sincérité alors radicale comme vous dites, ou finalement vous nous l'avez fait à l'envers en racontant ce que vous avez voulu nous raconter?
Alors, en toute sincérité, il y a eu une première version du livre qui a été distribuée vraiment à des personnes clés, quoi. Et là-dedans, j'avais mis le pire, le meilleur, etc. Et ça m'a permis d'avoir une itération et de me dire, on m'a dit non, là ça c'est trop, là ça c'est bien, là attention ça, etc. Et ce premier feedback là, de ces 10 personnes, en général, les gens, ils n'aiment pas avoir des feedbacks négatifs. Moi, j'ai pris les gens les plus coriaces. Je leur ai envoyé le bouquin. Et comme ça, j'ai eu les pires et les meilleurs trucs, tu vois. Et j'ai enrichi et ça a donné Karma Sutra. Voilà. Avec, pour moi, la part de sincérité radicale, comment je la mesure. Par exemple, hier, je suis parti enregistrer le livre audio. Donc, on va sortir le livre audio de ça.
Donc, vous allez raconter votre propre histoire.
Exactement. Il y a des gens qui sont aveugles, qui ne peuvent pas lire. C'est des amputés.
C'est une super idée.
Et on ne leur fait jamais rien.
Et puis, même pour les gens qui vont à la gym.
Les camionneurs, j'ai un peu tout. J'ai des cheminots, j'ai tout dans mon public.
Qui aiment bien s'entraîner avec quelque chose dans les oreilles.
Voilà. Et ils ont le bouquin, lit par moi. Parce que lu par un mec que tu payes un acteur, ça n'a aucun sens. Et pour te dire la part de sincérité, quand je l'ai lu, j'ai eu le petit truc dans la gorge, tu vois, sur certaines scènes. Pas la scène du père, mais la scène de la prof de français à l'école. Ah, j'ai eu le petit truc dans la gorge, la peur de la réussite, tout ça. Donc, je me suis dit...
Donc, ça vous renvoie à ce moment-là.
Ouais, je me suis dit, là, il y a un petit truc dans la gorge, c'est que là, c'est de la sincérité radicale. Et les gens, on voit dans les commentaires sur Amazon, les gens ont qu'à lire les commentaires sur Amazon ou aller sur mon Insta, by Steve, ils verront les commentaires des gens. Les gens disent, en toute sincérité, je les paye pas, ils lisent le livre et ils témoignent. Donc, moi, je pense que j'ai dit, j'en ai un peu trop dit même. Il est un peu trop intimiste. Et c'est là que tu te dis, c'est parfait. C'est parfait.
T'es juste au milieu entre finalement ce qu'il fallait dire, trop en dire.
Exactement.
Je sais pas si les coachs sont comme les psys, où finalement un psy doit dire très peu de choses. Est-ce que les coachs doivent en dire le moins sur eux-mêmes pour inspirer une forme de distance?
Alors déjà, moi je pense que je suis pas coach, puisque tout le monde le sait, je coache pas. Je coache plus, j'ai pas envie de coacher. Et j'invite les gens à ne faire que ce qu'ils aiment et à délaisser tout le reste, en fait. Ça permet de... Si tu coaches un jour, tu es un excellent coach. Sinon, c'est pour le fric uniquement et ça n'a aucun sens. Et tu finis par vomir l'espèce humaine. Voilà. Donc, je dirais plutôt mentor. Et c'est pas je raconte mon histoire, etc. Ça n'a pas vocation de ça. Ça a vocation à dire... tu peux... Il y a une technique en Chine, je ne sais plus comment ça s'appelle, où on vend, en fait, des pots fêlés. Tu vois? Et en fait, c'est l'art de la fêlure, quoi. Tu vois. Et plus il est fêlé, tu le jettes pas à la poubelle, tu le répares avec de l'or, etc. Et c'est là qu'il prend tout son sens. Donc c'est pour montrer, en fait, tu peux montrer tes blessures, tu peux même en tirer du nectar. Quel nectar j'ai tiré de ça? De l'abandon de mon père, d'une prof de français qui me récupère alors que je suis le cancre, de plein de trucs, tu vois. Quel nectar tu peux tirer de tout ça et comment tu peux le transmettre au monde? Et voilà, moi je trouve que c'est cool.
C'est le premier book club de Steve. C'est normal, c'est son premier livre. Karma Sutra, transforme-toi et tu transformeras ton histoire. C'est sur Amazon que vous trouvez le livre, bien sûr.
Tout à fait, pour l'instant sur Amazon. Et puis après, on verra si on le met ailleurs pour l'audio. Pour tout ça.
Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est le Book Club de Steve aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son premier livre Karma Sutra, transforme-toi, tu transformeras ton histoire. Voilà, vous le voyez sur le transistor, pour ceux qui ont encore des transistors, il n'y en a plus beaucoup. Mais vous le verrez sur la vidéo, puisque vous pourrez voir et suivre l'entretien sur la chaîne YouTube. C'est votre premier livre. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a été numéro un dès sa sortie, ce qui était un pari.
Mais bon,
comme vous faites rien comme tout le monde, effectivement, ça s'est passé. Et vous êtes au coude à coude avec la star des ventes en France.
Hein, c'est, que je viens de découvrir.
Voilà, oui, Guillaume Musso.
Guillaume Musso, je ne savais pas qui c'était. On vient de me dire que c'est le big boss.
Il a appelé la radio, il a dit c'est qui Steve.
C'est qui Steve, voilà. Il est premier, etc. Il est inconnu au bataillon.
Pourquoi il est premier,
ouais, ouais.
Guillaume Musso, numéro 1 des ventes en France. Et Guillaume Musso, qui est l'année dernière, ça a été le plus gros transfert, comme une équipe de football, d'écrivain, puisqu'il a changé de maison d'édition. Il est allé chez Calman Levy, c'était la chose dont le milieu de l'édition parlait. Ouais, donc Steve, on parlera de votre changement de... Vous avez choisi de craquer le game finalement et de ne pas aller chez...
Aucune maison d'édition, on craque le game. Bah, c'est ça qui est marrant. Si tu réussis, que tu fais ton album avec, bon, pour ceux qui connaissent le rap, je sais pas, avec Suge Knight ou avec... ou t'as l'entraîneur, t'as Cus D'Amato qui t'entraîne, c'est l'entraîneur de Mike Tyson. Bah oui, c'est facile. L'idée c'est d'arriver tout seul, tu vois, tu te fais un USBN, là, je sais même plus comment ça s'appelle.
ISBN.
Tu le sors comme ça, tu trouves un mec qui te l'imprime, c'est pas super et tout, mais t'as ta tribu qui est là derrière toi, qui te soutient, et puis après t'as ça, les gens en parlent autour d'eux, t'as d'autres gens qui te découvrent, voilà. Et puis peut-être que demain on aura un transfert ailleurs, on verra, on découvre. Là on a reçu un mail de Russie, la plus grosse maison d'édition de Russie veut les droits pour traduire le bouquin en russe. Alors si tu dis ça,
déjà on va essayer de le traduire en français.
Ouais, les gens croient
et
pas.
Et puis après on va le traduire en russe si vous voulez bien.
Je peux montrer à la vidéo, hein, comme ça on monte le truc. Enfin on verra. Je peux vous montrer.
Steve, attention, s'il y a bonjour, c'est Natacha, je voudrais te parler. C'est pas une maison d'édition.
Non, voilà, sujet, Karma Sutra. My name is Olga Goreva and I'm right.
Ah, non, Olga c'est bon. Olga c'est bon.
On peut montrer à la caméra. Enfin, voilà,
Olga, ça sent pas le fake.
Non, Olga ça sent pas le fake, non. Ouais.
C'est une biographie de développement personnel dans laquelle vous partagez avec ceux qui vous suivent et vos lecteurs 20 règles de base,
ouais,
qu'on ne va pas énumérer aujourd'hui parce qu'elles sont dans le livre. Est-ce que vous avez une bonne mémoire, par exemple?
J'ai une bonne mémoire sélective. Par exemple, moi, j'invite les gens. Moi, par exemple, je n'aime pas me souvenir des prénoms. Je déteste ça, en fait. Je m'en fous, mais alors complètement des prénoms. Et j'ai beaucoup de gens qui culpabilisent à cause de ça. Je leur dis, on s'en fout du prénom. Ce qui compte, c'est ce que la personne fait. Et le fait que je dise à mon cerveau « lâche prise, ne fais pas d'effort là-dessus », ça me permet, quand quelqu'un me dit « tu te rappelles de moi ?», je me dis « tout à fait, t'étais au deuxième rang dans telle salle de formation dans Paris, t'étais la personne la plus à gauche et t'as posé une question là-dessus, je t'ai répondu ça ». C'était il y a 2 ans. La personne me dit « waouh, incroyable !» Tu vois ? Ouais, parce qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Et le prénom, déjà concrètement le prénom, tu vois, encore une fois, dans ce livre-là, on revisite tout. Le prénom, qui l'a choisi ? T'as choisi ton prénom ? J'ai pas choisi mon prénom. Hein. Donc concrètement, t'es en train de donner de l'effort pour un truc, ça se trouve, le mec, à chaque fois qu'on lui dit son prénom, il dit « Ah, je déteste ce prénom, j'aurais bien aimé m'appeler Maxwell. Maxwell, voilà, ça j'aurais adoré. » Donc non, moi je choisis. C'est quoi qu'il a de vrai de lui, ses idées. Donc je me rappelle de ses idées, ses questions.
Mais par exemple, on connaît votre prénom, mais on connaît pas votre nom de famille.
Ouais, c'est mon secret, voilà, c'est un truc que je garde comme ça. Comme Malcolm, Malcolm X, Steve X, appelez-moi Steve X, c'est pareil.
Non, on va vous appeler Steve pour l'instant.
En plus, non, c'est pas bon. Steve X avec Karma Sutra, le truc, c'est pas bon.
Non, 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 non. Chaque chose en son temps. Tu vois, déjà, Karma Sutra, on va peut-être pas non plus. Qu'est-ce que vous avez à transmettre de plus à travers ce livre que vous n'ayez jamais dit en conférence, dans les heures de radio qu'on a fait ensemble, sur vos vidéos, sur YouTube? Qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus à ceux qui vont vous lire?
C'est une excellente question. C'est un peu comme si tu dis à un menuisier. Et il a fait 2 guitares, il a fait 3 timbales et puis il a fait une tasse. Il a dit, mais finalement, vous avez tout fait, vous avez fait une guitare, vous avez fait une timbale et tout. Bah non, je veux dire, moi je me forme, les gens qui me connaissent savent, je me forme continuellement. Donc j'ai toujours des trucs à transmettre. Mon truc, c'est, j'ai mon cursus de formation. Ça y est, j'ai mes formations, booster d'excellence, avec mes formations dedans, légende personnelle, etc. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai en plus? Bah je le mets dans des livres. Je le mets dans des émissions, je le mets dans des formations, je le donne au Mastermind Gold. Voilà. Enseigne ce que tu sais,
ouais,
et il te sera appris ce que tu ignores. C'est la base. Et plus tu gardes des trucs, tu dis « Ah non, ça, je ne vais pas le donner, c'est trop précieux. Non, ça, j'ai payé 2000 balles et c'est la pépite de la formation, je le donne. » Non, donne-le. tu le donnes. C'est la base. C'est la base de...
Le savoir circule, de toute façon, ouais, aujourd'hui.
Ça circule, c'est de l'énergie. Le savoir, c'est de l'énergie, c'est de l'information. Tu transmets l'information, t'en reçois autant que t'en as donné.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'on apprend quand on vous lit que l'armée a été une formidable école pour vous et que vous êtes quelqu'un qui passe son temps à transgresser les règles. Comment vous pouvez m'expliquer que l'armée, qui est une école de la règle et de la discipline, elle a été tellement formatrice pour vous et qu'après, vous ayez fait l'inverse?
Alors, il y a quelque chose que je ne raconte pas dans le livre. C'est vrai qu'il y a une anecdote qui est très intéressante. J'avais le maître de guerre dont je parle dans le livre.
Votre premier mentor.
Ouais, le premier mentor. Lui, machine de guerre. Pff, incroyable. Et donc, il y a plusieurs histoires que je ne raconte pas dans le livre. Deux en particulier. Une fois, donc, on part en pleine montagne. Il nous lâche en pleine montagne. Et il nous dit, voilà une carte, voilà une boussole. Rendez-vous dans 5 heures. Vous avez 5 heures pour arriver là-bas. Les camions vous attendent là-bas. Si vous n'êtes pas là-bas dans 5 heures, nous, on se barre. Et vous rentrerez par vos propres moyens à la caserne. Alors, la caserne, elle est à 100 bornes. Et tu te débrouilles. Et le mec, il dit, pour vous montrer, donc il se change, il se met en petit short comme ça, et il va jusqu'au camion en courant, et il revient.
Dans la neige, hein.
La folie.
Ouais.
Il revient, et il dit, c'est bon, les camions sont là, le chemin, il y a tout ce qu'il faut et tout. Et donc, lui, il va dans le premier camion qui nous a déposé, et ensuite, il se barre. Bon, pour te montrer la machine. Lui, il fait tout en courant. Et lui, un jour, il nous dit, pas vu, pas pris. Donc, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez dans cette caserne. Mais si vous êtes assez con pour vous faire prendre, vous êtes assez con pour que je vous punisse. Pour moi, les règles dans la vie, c'est la même chose.
Mmh.
Et de là, la règle, vaut mieux demander pardon que la permission. Tu vas au championnat du monde, et un livre en français, c'est possible? Non, c'est pas possible. Bah, si, c'est possible. Si, c'est possible. Ça, c'est possible? Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Tu vois? Donc, l'armée te donne un cadre. Les gens, souvent, un cadre, une religion, l'armée, tout ça, ah, c'est enfermant, etc. Non.
T'obéis aux ordres. L'armée, c'est ça.
Le cadre,
c'est la base.
Mais dans ce cadre, il te donne une sécurité et une marge de manœuvre incroyable. Tu vois? Et une fois que t'as ce cadre, dans ce cadre, t'as une infinité de possibilités extraordinaires. Donc moi, c'est ça que j'aime, avoir un cadre. Ok, je donne plein de règles aux gens, mais dans ce cadre, c'est pas trop normatif. C'est pour ça que j'aime pas paranoïaque, schizophrène, les approches trop normatives, les étiquettes. J'aime bien un cadre, un cadre, je te donne des outils de base, et après, tu as une marge de manœuvre incroyable.
Après, il y a un cadre pour donner les étiquettes, il y a des tas d'éléments qui permettent de les établir.
Oui, bien sûr. Oui. Donné par qui, donné par quoi. Voilà.
À proposer un diagnostic en psychiatrie, il y a plein d'éléments, mais bon.
Je rappelle, moi, j'ai un de mes mentors, et je lui dis, voilà, quel est le moment préféré que vous avez passé avec votre mentor à vous. Il me dit, pourquoi toujours choisir un moment préféré? Pourquoi pas deux? Pourquoi est-ce qu'il y aura un moment préféré?
Oui.
Pourquoi est-ce que c'est pas le moment détesté? Ou plus? Donc souvent, quand les gens me demandent un conseil, je leur dis, voilà, c'est ça. Ou l'inverse. Ou plus. Ou pas. Ou autre. T'as une infinie de possibilités. Choisis. Et tu vois, il est perdu à la fin. Et oui, mais en même temps, c'est ça. Et j'ai été suffisamment imprécis. Ah bon? Comment ça? Tout le monde veut être précis. Non. Tu donnes des règles, mais en même temps, ouais, mais telle règle a contredit ou elle a complète. Tout dépend. Ou pas. Ou elles n'ont aucun rapport. Tu comprends ou pas? C'est vraiment une liberté, quoi.
Ouais.
Voilà.
Après, t'en fais ce que tu veux, tu l'interprètes comme tu veux, c'est chacun comme il l'entend.
Exactement, tu vois.
T'as les règles de base, tu te débrouilles.
C'est notre.
Ouais.
Et ça heurte la sensibilité de personne. C'est des règles, n'importe qui peut les appliquer. Voilà. C'est un bouddhiste, l'autre là dans son char, un militaire, un président. Tu prends les règles, ah ouais, c'est vrai, ça s'applique à ma vie, ouais, c'est vrai.
Alors l'armée, vous engagez, hein. C'était pas l'armée, c'était pas le service militaire, vous engagez,
ouais.
Vous décidez de vous engager, et comme vous décidez d'en partir pour des tas de raisons qu'on découvre dans le livre, est-ce que c'est à l'armée que vous apprenez votre discipline physique, ou ça c'est quelque chose que vous aviez avant?
Non, je l'avais avant la discipline physique.
Mmh.
J'étais déjà un fou de sport de combat, de course. Le seul truc, c'est qu'à l'armée, bon, c'est tous les jours, matin, midi et soir. Donc là, tout de suite.
C'est tous les jours parcours du combattant.
Tu prends un niveau qui est complètement différent, qui n'a rien à voir, quoi. Voilà.
Mm.
Et en plus, le mec qui nous entraînait était un marathonien, un champion. Je raconte dans le livre les entraînements et tout. Donc bon, tout de suite.
Ce que vous finissez par faire, vous aussi, puisque vous adoptez le mental d'un marathonien, c'est quelque chose que vous ne faites plus du tout aujourd'hui, le marathon. Alors, vous êtes pas drogué à la course à pied?
Non, j'aime pas la course à pied.
Parce que j'ai essayé de vous traîner quand même.
Pas du tout. Pour moi, c'est du bullshit.
J'ai essayé de vous entraîner à Jakarta, courir.
Non.
Et non, c'est pas votre truc,
bullshit.
Ça.
Bullshit. Moi, de ce que j'ai étudié, la course à pied, ça bousille les genoux. Et la plupart des coureurs, des gens qui courent, ils ont les genoux bousillés à 50 ans, 60 ans.
C'est vrai.
C'est pour ça que je préfère la natation. Natation, ça bousille rien.
Mmh.
Et je rappelle qu'à la base, on était tous dans un liquide amniotique. Donc, c'est quand même notre endroit. Et en même temps, ça t'est décontracté. mais en même temps, tu nages, ça muscle tout le corps. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a des piscines d'eau de mer qui existent, etc. Donc ça te permet, parce qu'on te dira, ouais, mais tu respires le chlore et tout, et en même temps, tu es en surventilation, donc c'est hyper nocif. C'est vrai, tout ça, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Il y a des piscines d'eau de mer aujourd'hui, les gars, ça existe. Ou alors, tu fais comme moi, tu habites à la mer, tu peux nager tous les jours dans la mer, tout simplement.
Pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les vertus de la discipline ou d'avoir une discipline qui peut être, comme on l'a compris tout à l'heure, sa propre discipline?
La discipline accélère la vitesse de croissance, bien sûr. Imagine un mec qui commence à manger bio. Il mange bio, puis après il va à KFC. Puis après, il fait une rechute, puis après il repart et tout. Bah, ça n'a rien à voir avec un mec qui mange bio tous les jours. Et demain, tu lui mets 3 amandes et tu lui dis laquelle n'est pas bio. Bah, il prend une amande, il la mange, il attend un quart d'heure. Rien. Deuxième amende, il attend un quart d'heure. Ah, ça commence à lui piquer la gorge. Ah, il commence à avoir des bouffées de chaleur. Ah, il commence à transpirer. Ok, on a des pesticides dedans. Parce que comme t'enlevais tous les pesticides de corps, le corps est capable de détecter.
Mm-hmm.
Tu comprends?
Oui, bah, parce qu'il est entraîné, donc.
Il a été entraîné. Mm-hmm. La discipline, c'est la même chose. Tu dois le faire jusqu'à ne pas le faire, te fait souffrir plus que de le faire. C'est compliqué comme règle. Tu dois le faire jusqu'à ce que, quand tu le fais pas, ça te fait plus souffrir que si tu le fais. Si tu prends les gens qui méditent le matin ou qui prient le matin, tu vois, si tu lui enlèves ça, il a bousillé sa journée.
Et il sait qu'il y a quelque chose qui va pas.
La
journée a mal, démarre
mais
mal.
Si tu prends tous les mecs et ils disent j'ai la flemme, j'arrive pas, etc. Tu vois, l'œil du veau, bah lui, c'est dur pour lui. Et il doit passer, donc maintenant, l'étude de Harvard, ça montre, c'est 66 jours. Étude de Harvard.
Pour prendre une nouvelle habitude. Alors, on a dit tout et n'importe quoi.
Il y a les 12 jours, les 21 jours, les 12 heures, etc.
C'est un chiffre moyen, 66. Hein.
C'est un chiffre moyen. Après, ça peut aller jusqu'à 90 maximum dans l'étude.
Pour prendre une nouvelle habitude. Mais ce qui veut dire que c'est très peu de temps. Enfin, quand on réfléchit,
à l'échelle d'une vie.
C'est deux mois.
À l'échelle d'une vie, imagine quelqu'un qui se met à faire du sport. 60 jours après, pour le reste de ta vie, c'est programmé. La discipline accélère la vitesse de croissance. Ouais. Transforme-toi, tu transformeras ton histoire.
Discipline, voilà.
Ouais. T'as une possibilité de chemin quantique, de champ quantique, un champ de spectre. À chaque endroit, tu choisis. Est-ce que tu te diriges vers la meilleure version de toi-même, même si la phrase a fait un peu New Age, Heal the World. Alors moi, j'ai une nouvelle version.
La nouvelle version de la nouvelle version.
La nouvelle version de Heal the World, juste avant la pause.
Ouais, vas-y.
C'est Kill the world, make a worse place for you. Bah ça c'est pour voilà, c'est dès que tu deviens pas la meilleure version de toi-même que tu te diriges vers le côté obscur, t'es là-dedans, t'es dans Kill the World.
C'est Book Club, Karma Sutra, transforme-toi, tu transformeras ton histoire, c'est le premier livre de Steve et tu nous en parler jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Steve, vous avez l'habitude de l'entendre, pas dans le Book Club, en tout cas c'est son premier Book Club puisque c'est son premier livre qui vient de sortir. Karma Sutra, transforme-toi, tu transformeras ton histoire sur Amazon. Alors, sur Amazon, on a un geek qui nous dit, il a raison parce qu'il achète beaucoup sur Amazon, c'est que finalement quand tu achètes un livre sur Amazon...
T'as les frais de port gratuits après.
Voilà, si tu achètes autre chose, les frais de port sont gratuits.
Exactement, ouais. Donc, voilà. Ça peut être intéressant, si vous faites un panier Amazon, vous rajoutez le livre et puis voilà, vous êtes tranquille.
Voilà. Donc 20 règles de base que vous partagez en racontant votre histoire. On dit que les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter.
Ouais. Ouais, les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter. Bah, ça me renvoie en fait pendant un moment quand les gens disaient ouais, commando, arrête, storytelling, ça n'existe pas. Le mec, je suis sûr, il a rien fait et tout, champion du monde. Mais non, arrêtez, il était là-bas, on sait pas, on n'y était pas en Chine et tout. Bah, je me suis dit, faisons un livre, tu vois. Et ce qui était super beau, c'est que le gars qui m'a enregistré quand j'ai fait le livre audio, dans le studio d'enregistrement, c'est un mec qui m'a connu depuis tout petit. Donc, tu vois, en fait, il a entendu toutes les histoires. À chaque fois que je faisais les pauses, il me disait « Eh là, ça me rappelle, eh là, t'as vu, ça, c'était, etc. » Donc voilà, j'ai des preuves, j'ai des témoins.
Et de toute façon, je pense qu'une histoire, même si elle est bonne,
ouais.
I buy it.
J'ai pas de problème, moi. Je peux défendre. Je me mets sur une scène devant 1000 personnes. Je leur dis « Posez-moi n'importe quelle question, demandez-moi des preuves. » J'ai les preuves, j'ai tout. J'ai toutes les sources, j'ai tout. Voilà, et là, c'est noir sur blanc. Et il m'en reste dans le coffre pour le deuxième. Mais bon, le deuxième, on va attendre un moment là.
Moi, je pourrais écrire le troisième. J'ai des anecdotes. Moi, j'ai les anecdotes.
Il était là au championnat du monde en Chine. Skier en Chine, normalement, reste en Chine, Philippe.
Ah oui.
Philippe, il était en Indonésie aussi. Skier en Indonésie, reste en Indonésie.
Et alors, ce qui était à Tanger, reste à Tanger.
Surtout, on n'en parle pas.
Mais c'est vrai. Et c'est vrai que vous voyagez beaucoup, finalement, aujourd'hui.
J'adore.
Ouais, mais c'est quelque chose que vous... Quand vous étiez gamin, c'était pas une habitude.
Ah non, pas du tout. Non, non, je regardais les gens voyager. Ouais. Ou je voyageais dans ma tête. Rêve ta vie ou rêve. Voilà, c'est ça. Ou passe à côté et meurt et tu dis « Ah merde, je passe à côté de ma vie, c'est fini déjà et tout ?» Ah ouais, il n'y a pas de bouton pause dans la vie si tu veux, c'est bon, on n'est pas sur PS4 là. Et quand c'est fini, c'est fini. Donc joue ta partie maintenant.
Qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier gamin? Le premier, en vrai.
Le premier, je crois que je voulais faire chanteur. Donc tu vois, on y est. Hein.
Déjà, ouais.
Micro.
Ouais. Mais c'est pareil.
Kill the world. On y est, voilà, on y est, tu vois. C'est à peu près la même chose, bah, d'où le rappeur. Tout de suite rappeur, tu vois.
Mais est-ce, après, que vous, est-ce que vous vouliez être connu ou pas? Ou ça n'avait aucune importance?
Non, mais non, pas du tout. Au contraire, là, c'est une question capitale. Les gens arrêtent de faire tout ce qu'ils font. Je voulais être inconnu, complètement. D'ailleurs, quand j'étais rappeur, inconnu. Tu pouvais pas, personne ne peut me retrouver. Tu vois, parce que tout le concept, c'était d'être inconnu. Comme c'est Few, comme d'autres, etc. Tu vois pas leur tête. Pareil, même concept, en fait. Voilà. Inconnu.
Oui, mais les rappeurs, ce sont des connus inconnus.
C'est donc, des connus inconnus, mais voilà. Selfie où il se balade dans la rue, tu le reconnais pas, je veux dire, tu sais pas, tu vois. Et la radio, t'as des photos.
Magnifique pour ça.
Mais voilà, tu vois, inconnu, voilà. Ouais. C'est pour ça que je fais pas de télé, je déteste la télé, je passe pas la télé, tout le monde me dit, ouais, va la télé, mais une chaîne, ils sont venus me voir, j'ai mangé. Je dis, non, ça m'intéresse pas.
Je dis, vous avez
télé.
Une grosse tête, en 16/9, ça passe pas.
Non, ça passe pas.
Les télévisions sont trop larges aujourd'hui.
Non, ça m'intéresse pas. Et puis en plus, non, ça m'intéresse pas. Comme dirait l'autre, la télé, c'est ce que je vois sur mon tapis de course à la salle de sport.
Ma règle préférée de karma, c'est si vous avez une peur, fixez-vous-la comme objectif.
Bien sûr. Avec ce truc du volcan, là, où je dis, j'explique. Parce que j'en crois aussi que c'est un mythe, non? J'avais peur quand je voyais pas l'eau en dessous. Allez hop, qu'est-ce qu'il y a? Un volcan éteint, un cratère rempli de flots, des marécages, trucs, ah, dégueulasse. Ok, on y va. Ça a le goût de légende personnelle, ça a l'odeur. Ça m'intéresse. On y va. Et je l'ai traversé à la nage. Et j'explique le pourquoi, le comment, ouais. Qui, quoi, tu vois. Voilà.
Pas terrible hein, de nager quand on ne voit pas ce qu'il y a dessous.
Ouais, c'est ça qui est bon. Avec des algues, tu as des trucs qui touchent tes pieds, des branches, tu sais pas ce que c'est. Le monstre du Loch Ness, concrètement, il est dans le Loch Ness, il n'est pas là-bas. Et puis, il y a une fille, d'ailleurs, j'ai mis le récit d'une fille, Latifa, qui raconte, elle aussi, comment elle a combattu sa peur grâce à cette énergie de groupe. Toute l'équipe, la Booster d'Excellence, ils ont un groupe Facebook privé, ils sont ensemble. Ils se motivent, les gars. Et d'ailleurs, il y a le Mastermind Goal, là, qui est un événement réservé aux membres du programme Booster d'Excellence qui a lieu samedi prochain. Et il y en a un, on l'a pris. Donc lui, il doit faire l'Everest ou le Mont Blanc ou le K1, un sommet de fou. Et il a dit, ouais, j'ai dit qu'il va faire un truc de fou. Il y a une fille, elle a dit, ouais, moi, le marathon de New York. Ouais, c'est pas mal. Lui, il a dit, ouais, je vais faire le Mont Blanc. Ah, Mont Blanc, ça m'intéresse. Combien de temps? Un an. J'ai dit, non, t'as 3 mois jusqu'au prochain Mastermind Goal. Donc là, il vient, il doit nous montrer les photos, la preuve. Tu vois, c'est vraiment une équipe, on s'entraide, quoi. Et elle, pareil, elle a le vertige. La meuf, pour combattre le vertige, bam, la plus haute montagne de France ou je sais pas quoi. On est comme ça, nous, Philippe. On n'y va pas avec le dos de la cuillère.
À quel moment vous prenez conscience de l'expression légende personnelle? Votre formation la plus réussie, c'est légende personnelle.
Ouais.
À quel moment vous l'appropriez?
Alors, légende personnelle, c'est quand je lis L'Alchimiste, je crois. J'ai jamais lu le livre en entier depuis un moment. L'école m'a écœuré de la lecture comme beaucoup de gens. J'étais passionné, puis après l'école, au même endroit, tout le monde s'arrête de lire, c'est bizarre. Échec scolaire, voilà. Faut redonner le vrai sens au terme échec scolaire, voilà. Au bout de 40% d'échecs, c'est plus les gens, c'est le système qui a un problème. Petite dédicace spéciale, hein, voilà.
Et langage des oiseaux.
Langage des oiseaux, évidemment. Et donc, je lis ce bouquin, et là, en une nuit, c'est ma cousine qui me l'offre. Big up à toi, Catherine. Hop. Ah oh là là, punchline, tac. Et légende personnelle, je vois légende personnelle. Tu sais, il y en a, ils voient le chiffre 7 partout, là. Le chiffre 33, le chiffre 23. Moi, je vois légende personnelle partout dans le livre. Et là, tout de suite, je me dis Ikigai. Ikigai, la folie. Tout est parti de là, cette nuit-là. Et là, après, ça y est, j'avais décollé. J'avais appuyé sur le bouton nitro, comme dans Fast and Furious, là. Impossible à arrêter, le mec. Une torpille. Une torpille russe. Poséidon, projet Poséidon des Russes. Ouais. Enfin, voilà. Ça a commencé là.
Dans L'Alchimiste, moi, je ne vois que les 7.
Ouais.
Et j'étais passé à côté de la légende personnelle.
De la légende personnelle.
Du coup, je l'ai relu après.
Mais beaucoup de gens passent à côté de légende personnelle. Mais moi, ouais. Légende personnelle, bah, légende personnelle, je disais aux gens, connais pas. Ok, j'en fais une formation. Comment tu découvres ta légende personnelle en 48 heures, t'es perdu, ça y est, c'est bon, t'es trouvé, tu sais où tu vas, ce que tu vas faire, comment, pourquoi. Ouais, très simple. Voilà, tu peux économiser. Oui, sinon, ça te prendra 10 ans tout seul.
Bien.
Fais ton choix.
Allez, exercice en exclusivité pour les auditeurs de Beurre FM. Est-ce que vous pouvez nous lire Réminiscence?
Alors, il faut expliquer Réminiscence, c'est le slam donc, que je lis dans le livre. J'ai un de mes mentors qui me coach quand je me mets à faire du slam. J'arrête le rap, parce que je considère qu'après, qu'au bout d'un moment, que le rap est un pétard mouillé. C'est un peu comme faire une manif militantiste, un truc hyper sérieux habillé en clown, si tu veux. Voilà. Le mouvement lui-même décrédibilise tout message que tu porteras. Donc je me dis, on va en venir directement au message pur. Et là, je m'assois devant des intellectuels, etc. Et là, tout de suite, bah, il faut lire. Et donc, j'ai ça, et c'est le slam qui fait qu'après, je deviens champion de France de slam. Alors, ça nous dit, ça s'appelle Réminiscence. Voilà. Parfois tard le soir, je m'assois seul dans ce parc et je médite, les yeux rivés face à l'immensité de l'espace intersidéral. Et là, je pense. Oui, je repense à mes voyages au bled et je revois ce vaste lac salé à sec traversé par des véhicules archaïques et ces humbles nomades se guidant grâce à Sirius ou aux astres de la constellation d'Altaïr. Et là, je pense. Oui, je repense à ces guerriers qui ont conquis de lointaines contrées puis sont morts au front pour un roi qu'ils n'ont jamais rencontré. Peut-être était-ce César, Darius et Agamemnon, ou un de ces empereurs funestes dont l'histoire ne se remémore même plus le nom. Je repense à cette histoire d'amour entre un roi et sa couronne, faite d'or et ornée d'émeraudes comme celle de Nemrod. Bénis soient les martyrs sous le règne de Hérode, et maudits soient les hordes sous les ordres du Dajjal. Je revois les chevaliers partir en quête du Graal, et ce Maharaja faisant bâtir le Taj Mahal. J'entends le chant des sirènes, les cris de Prométhée et Galilée brisant les 7 sphères de cristal de Ptolémée. Je revois les villes renversées, les croisades le sang versé et ce calife qui par une flèche empoisonnée fut transpercé, les nations dispersées, le théorème inversé et le sceau de la prophétie protégé par les 7 versets. Et là je repense aux écrits des apôtres et aux récits des hadiths transmis par les sahaba et je me dis qu'on est aussi loin de leur sagesse qu'on est loin de cette époque où un océan recouvrait le Sahara. Réminiscence.
Et là, on est en quelle année?
Là, on est en 2010, je crois, 2012. C'est, moi, je suis comme les noms, les années...
Ouais,
on est en 2010-2012. C'est un peu après la sortie du film Slam, qui est d'ailleurs introuvable maintenant, avec Joshua, je ne sais plus quoi. Excellent film, incroyable, qui n'existe qu'en DVD. Donc, comme j'ai plus de DVD, je peux pas le regarder. Mmh. Mais si des gens ont un DVD, vous l'achetez, ce film, il est extraordinaire, moi, je trouve. Avec une très bonne BO de Reza ou Jayza du Wu-Tang Clan, d'ailleurs.
Mmh. Vous l'avez enregistré, ce texte?
Il est enregistré dans le livre audio, bien sûr.
D'accord, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de disque, il n'y a pas de...
Alors si, sur l'album que j'ai retiré de la vente, voilà, mon
D'accord,
album de rap.
On ne peut pas le trouver, quoi. Voilà.
On ne peut pas trouver, il y a ça, mais en rap, avec deux chanteurs qui étaient connus à l'époque, qui sont très connus, des mecs de R&B, qui font les chœurs, qui font le refrain, qui font tout ça, et donc retiré de la vente. Mais peut-être qu'un jour, je le ressortirai, hein, voilà, je sortirai ça en slam, ou je sais pas, je verrai, on verra. Si les gens demandent, si tout le monde se met à demander, ouais, un truc, le slam, un album de slam. Bon, on verra, peut-être on fera du slam, tu vois.
Et là, quand vous relisez Réminiscence, vous vous replongez au moment où vous l'écrivez ou c'est clair pour vous, pas du tout?
Le moment où je l'écris?
Ouais.
Ah non, c'est totalement clair. Le moment où je l'écris, en fait, c'est un moment où je prends conscience, en fait, que tous les trucs complètement barrés, parce que j'arrive dans, je suis dans un gang, j'explique, etc. Et comme n'importe quel mec, en fait, le syndrome du colonisé, comme dirait Malek Benhabi, je veux faire comme tout le monde. Donc je vais faire de l'ego trip, tout. Je me rends bien compte que ça n'a aucun sens, les mecs sont bien meilleurs que moi, tu vois. Et je me dis en fait, c'est quoi ma patte en fait? Et je me dis à un moment, on me demande d'écrire un texte en une heure, et j'ai plein de trucs et tout, et après je me dis non, je vais pas parler ça de Pégase, d'Andromède, de Thésée, et les mecs sont à côté de moi, putain, mais c'est mortel ça! Putain, mais on saurait faire ça, on le ferait! Et là, j'écris un texte de 16 mesures, La Folie Furieuse, avec Je m'envole sur Pégase, jette des météorites, la constellation d'Andromède. Oh là là, ils me disent la folie. Et en fait, je me rends compte que tout ce qui m'est arrivé avant n'était fait que pour me préparer à ce qui va arriver. Tu vois, le vase. Voilà. Et c'est là que je commence à mettre des trucs complètement barrés. Et là, dans ce texte-là, je me dis là, maintenant, j'y vais, je mets tout. Les 7 sphères de cristal de Ptolémée, tous les trucs. Tout y est, en fait. Voilà. Alors, t'as un mec qui est historien, il va dire extraordinaire. Le mec qui n'est pas historien, c'est un cours d'histoire. Là, t'as un résumé d'histoire. tiens, c'est qui les apôtres? Sahaba, Sirius, ah, Altaïr. Il va dire, oh là là, Agamemnon, en fait, c'est là-dedans. Et en fait, c'est la phrase. Nemrod, en fait, ah, le Dajjal. Ok, la quête du Graal. Oh, le Taj, Prométhée, en fait, c'est le mec, c'est l'histoire. Le théorème inversé, les nations dispersées, le théorème inversé et le sceau de la prophétie protégé par les sept versets. Alors déjà, il faut découvrir c'est quoi les sept versets. Tu vois, ensuite, c'est quoi le théorème inversé? Tu vois, tout ça, en fait, et c'est un texte archéologique, le truc. C'est les fouilles au bas de la pyramide de Khéphren. Voilà, c'est ça.
Voilà, faut commencer. Menez votre enquête. Alors, c'est aussi un challenge, le livre Karma Sutra, puisqu'en fait, ce livre va voyager.
Ah.
Il y a une chaîne, là. En fait, si vous voulez, voilà, c'est le...
Alors ça, c'est, tu vois, par exemple, tu peux le faire quand t'es pas en maison d'édition. Parce que tu fais ça chez une maison d'édition, ils disent, faut enlever ces deux pages, monsieur, là, on a plus une thune.
Ouais.
Mais tu t'en fous, puisque toi, tu crois dans l'univers. Dans tout ça, en fait, dans le karma, que si, tu vois. Et donc, il y a un truc qui s'appelle « Vous êtes les gens du livre ». Je le montre à la caméra. « Vous êtes les gens du livre ». Donc, si un mec, déjà, il connaît pas un petit peu « Vous êtes les gens du livre », il comprend pas.
Ah bah là, c'est comme vous prenez.
Mais le mec qui comprend « Vous êtes les gens du livre », c'est un fou. C'est un fou. Et donc, j'y dis « Attention, ce livre ne s'auto-détruira pas après que vous l'ayez lu. Au contraire, il est un don qui a pour vocation d'être transmis. » Votre mission, si vous l'acceptez, sera de le transmettre à quelqu'un que vous aimez, de le déposer sur un banc dans un square, de l'offrir à un sans-abri, de le prêter à un ami malade, etc. Et en fait, le but, il y a plein de pages comme ça,
voilà.
Et les gens y mettent leur nom et la date. Et ensuite, ils prennent ce petit livre et ils l'offrent à quelqu'un. C'est pas un livre qui est fait pour rester dans ta bibliothèque parmi les autres. Ça n'a pas de valeur. C'est de l'énergie. L'énergie, elle n'est pas faite pour être stockée. Elle est faite pour être transmise. Et le but, c'est qu'à la fin, les gens prennent le livre, ils disent « Wouah, tout ça de gens qui l'ont eu, gratos. » T'as un mec qui l'a acheté au début, il l'a transmis, c'est l'énergie de l'univers. On est bien.
Karma Sutra, transforme-toi, tu transformeras ton histoire. C'est le premier livre de Steve qui vient de sortir.
Tout à fait.
En vente sur Amazon,
numéro 1
des
Amazon.
Ventes. Alors, je pense que Guillaume, il a eu les boules. Musso.
Ouais, il a mis le paquet.
Je crois que.
Il en a acheté 200 pour être sûr.
Je crois que chez Kalman Levy, ils sont en train de rajouter pour essayer de vous battre. En tout cas, c'est un beau combat. Félicitations. Ouais.
Mais tu vas voir, on va rester le premier longtemps.
Bah, attends,
on a une tribu de fous derrière.
Voilà. Mmh. Premier livre, ouais. Numéro 1 des ventes, ouais. Sur Amazon. Ouais.
Et on en a déjà fait 2200 en moins d'une semaine, là. C'est incroyable.
Steve, la semaine prochaine, gros rendez-vous, grosse émission, puisque Oussama Amar sera notre invité vendredi,
ouais.
Entre 9h et 10h, donc on compte sur vous, parce que c'est quand même le choc des titans.
Grosse émission, après Idrissa Berkane, Oussama Amar, là c'est la folie furieuse, soyez au rendez-vous. Pull up.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.